Eh bien, tout d'abord, bonjour à tout le monde, à ceux que je n'ai pas pu saluer. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans la maison du Seigneur, une des maisons du Seigneur, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il est partout, il est omniprésent. J'ai particulièrement aimé les chants, je ne sais pas si vous, et l'avant-dernier, merci Serge pour ce choix de chant. Je t'ai dit que le Seigneur te conduise, et il te conduit toujours bien. Alors ça, c'est une grâce. Dans l'avant-dernier chant, nous avons chanté que nous sommes la prunelle de ses yeux. Alors, je crois qu'il y en a beaucoup qui savent ce que c'est que la prunelle des yeux. Et comme c'est précieux d'avoir une prunelle en bonne santé, ou une compagne qu'on appelle ma prunelle aussi, pourquoi pas, hein? J'en vois qui se manifestent. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'on aime tous les belles histoires d'amour, hein? Et que entre le début de la création et encore aujourd'hui, l'histoire entre Dieu et son peuple est une véritable histoire d'amour. Ça commence par l'amour de Dieu pour l'homme, puis il le maintient pour son peuple, cet amour envers et contre tout. Il attend, il espère une réponse de leur part. Il y a un texte qui m'a particulièrement marqué il y a quelques années, et qui revient sans cesse dans ma tête, celui qui s'affiche. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et souvent, on s'arrête là. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et un petit peu plus loin, il marque « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Oh, ça c'est dur. C'est dur à entendre. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Alors moi, je me suis posé la question. Mais la connaissance de quoi ? Jésus a répondu, de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez qu'avant, les esclaves, quand on disait on les affranchit, c'était leur donner la liberté. On affranchit un esclave, tu es libre maintenant. Alors de quelle vérité Jésus parle ? Il a répondu aussi à cette question, « Je suis, et je crois qu'on l'a entendu ce matin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. Car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il a apporté ainsi au temps fixé La preuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il a apporté au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors pour préparer cette prédication, je me suis plongée dans les écritures, on va dire originaux, la Bible en hébreu, traduite, hein, parce que je ne lis pas l'hébreu, et la Bible en grec, traduite aussi parce que, pour moi, ce sont les paroles les plus proches de ce que Jésus a dit ou de ce que Dieu a voulu dire. Donc, être sauvé, en grec, dans le Nouveau Testament, c'est sozo, ça je pense que vous le savez, qui veut dire salut, sauvé et guérir. Donc, en fait, si on comprend bien, ce n'est pas plus de foi qu'il nous faut, mais plus de vérité. Et si on veut plus de vérité, il faut identifier les mensonges. Les mensonges que nous avons crus, parce qu'ils nous ont peut-être été enseignés depuis longtemps, longtemps, et il faut ôter ces mensonges de notre vie une bonne fois pour toutes. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi ? Parce que le mensonge est une prison. Alors c'est vrai que c'est cool de rester dans notre zone de confort, dans nos petites habitudes, et de ce que l'on connaît depuis longtemps, de ce que l'on a appris aussi. Mais de temps en temps, il est nécessaire de sortir des ronces et d'arrêter de se faire piquer par des échardes pour marcher sur le chemin plat que Jésus a préparé pour nous, ce chemin de sécurité. Alors si vous voulez bien, j'aimerais qu'on regarde ensemble peut-être les mensonges auxquels on a cru et qui nous ont enfermés dans une prison. Certains appellent ça des doctrines de démons. Je n'ai pas osé prendre ce texte et de reprendre cette parole. Alors, le premier point, Dieu est souverain. Le souverain, dans le temps des rois, c'était celui qui donnait, qui avait la possibilité de donner vie ou mort à ce qu'il voulait. Ça a une connotation qui est très négative. Et souvent, dans la bouche du chrétien, quand on dit « Dieu est souverain », cela sous-entend qu'il fait ce qu'il veut. S'il veut nous guérir ou nous sauver, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Que sa volonté soit faite. Ça, c'est une manière aussi de dire « Voilà, c'est son problème, moi je m'en lave les mains, que sa volonté soit faite. » C'est un mensonge. La souveraineté de Dieu veut dire que lorsqu'il arrive quelque chose, rien ne lui résiste. Quelles que soient les circonstances, rien ne peut lui résister. Mais en aucun cas, cela veut dire qu'il peut guérir ou sauver, ou s'il veut, il ne le fera pas. Parce que cela viendrait contredire ce que l'on vient de voir au-dessus. Car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il a apporté au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Sozo. Vous êtes d'accord avec moi, la parole ne se contredit jamais. Et cela viendrait aussi contredire ce que Jésus est venu faire sur terre. Luc 4, 18, 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il veut libérer les opprimés, redonner la vue aux aveugles, non pas physiquement, mais spirituellement, physiquement aussi. Ce sont des paroles qui sortent de la bouche de Jésus, qui ont été prophétisées par le prophète Ésaïe. Donc oui, Dieu est souverain, mais seulement dans le sens où rien ni personne ne peut lui résister. Deuxième point. Je suis indigne, ou pas assez bien, ou trop pécheur pour Dieu. Qu'est-ce que je l'entends ça ? Ah oui, mais Dieu ne voudra pas de moi. Dieu ne veut pas me guérir parce que je ne suis pas assez bien. C'est un mensonge. Lorsqu'on déclare cette parole, c'est de l'orgueil. Parce qu'on regarde à soi. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas méritant. Nous ne méritons rien. Tout nous a été donné par grâce. C'est un héritage. Le mérite, c'est une récompense, un effort donné, un travail donné. Nous n'avons donc rien à mériter, nous n'avons rien fait qui mérite la faveur de Dieu. Nous avons juste à hériter. C'est comme si vous aviez une vieille tante d'Amérique que vous ne connaissez pas. Et puis un jour tombe cet héritage de plusieurs millions de dollars. Vous êtes d'accord avec moi, vous ne méritez rien puisque vous ne la connaissez pas, vous n'avez rien fait pour elle. Mais vous avez juste à hériter. Alors j'aimerais dire que les chrétiens arrêtent de se flageller et de se culpabiliser sans cesse en disant « Je ne mérite rien, je n'ai pas été assez bien, je n'ai pas assez prié peut-être ». Je n'ai pas fait ma prière du matin ou je n'ai pas... Tout ça, c'est un mensonge. Croire que l'on est indigne, c'est aussi croire que Jésus n'a pas tout accompli pour nous. Donc, il faut encore faire des œuvres pour mériter notre salut, sans cesse et sans cesse. Jusque quand ? Or, c'est par la souffrance de Jésus sur la croix que nous sommes sauvés, guéris, sozo. Tout est accompli. En grec, tout est accompli, c'est tétélestai, qui veut dire fini, définitivement terminé. Or, si Jésus a déclaré qu'il avait définitivement tout terminé, sachant qu'il ne faisait que ce que le Père lui demandait de faire, nous pouvons prendre en considération ce que Ésaïe 53 a déclaré. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a donc bien payé la dette, définitivement terminée. Et si une dette est payée, elle ne revient plus. Si une dette est payée, elle ne revient plus. La colère de Dieu pour son peuple désobéissant est tombée sur Jésus, pour que nous soyons sozo, sauvés, pardonnés, guéris. Et Jésus a confirmé ses propos quand il est venu sur terre. Il a dit, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Pardonner les péchés, il a dit aux pharisiens, pardonner nos péchés, pardonner vos péchés ou guérir les malades. Il est plus compliqué de pardonner les péchés parce que tu peux guérir quelqu'un qui n'a pas la foi. On peut guérir quelqu'un qui n'a pas la foi. Lazare a bien été ressuscité. Il n'avait plus la foi puisqu'il était mort. Mais on ne peut pas amener quelqu'un à Jésus sans qu'il ait la foi. Ça, c'est une décision du cœur. Donc, il est plus difficile de pardonner les péchés que de guérir. Donc oui, c'est un mensonge aussi. Troisième point. Je suis malade à cause de mes péchés. Ça aussi, vous devez l'entendre et je l'entends souvent. Mensonge. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, et c'est quelque chose qui m'est vraiment à cœur, que Dieu n'est pas un père qui tape sur la tête de ses enfants pour leur faire comprendre quelque chose, pour leur faire comprendre l'obéissance. Oui, nous devons marcher dans l'obéissance, mais Dieu ne veut pas utiliser cette manière-là. Alors vous allez me dire, ben oui, mais regarde les chardes de Paul. Trois fois, il a dit, ôte-moi cette écharde dans ma chair, et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Alors, l'écharde de Paul, au risque peut-être de vous surprendre, n'est en aucun cas une référence à la maladie. Et nous allons voir pourquoi. Nombre 33, 55. Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en votre faveur, ceux que vous laisserez là seront comme des épines dans vos yeux et des échardes dans vos flancs. Ils seront vos adversaires dans le pays que vous habiterez. Josué 23, 13. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel Dieu vous a donné. 2 Samuel 23, 6. Mais les méchants sont comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. L'écharde de Paul fait référence à ses adversaires et non pas à la maladie. Paul parle que partout où il va, ses adversaires l'empêchent d'annoncer la bonne nouvelle. Dans une traduction, il dit même « un ange de Satan vient me souffloter ». Souffloter, en grec, c'est gifler. un ange de Satan vient me gifler. Et il se sent faible. Pourquoi ? Parce qu'il veut annoncer la bonne nouvelle et il voudrait que tout le monde l'accepte. Et on voudrait tous ça. Or, des anges de Satan viennent pour provoquer des adversaires contre lui, pour le perturber, pour l'empêcher d'annoncer cette bonne nouvelle. Et qu'est-ce que Dieu lui répond ? Ma grâce te suffit. Parce que quand tu seras faible pour annoncer la bonne nouvelle, je serai là et je vais t'aider. Et justement, si les anges de Satan viennent provoquer des adversaires contre toi, c'est parce que ma grâce est là et que la vérité est là et qu'on veut t'empêcher de la dire. Voilà ce que veut dire les chartes de Paul. Je vous encourage à relire tous ces textes dans des traductions qui sont différentes peut-être de celles que vous avez eues ou comprises. Alors, je dirais, mes frères et sœurs, ce que je veux vous dire est important. Nous devons changer d'alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance de la loi qui a été faite pour prouver que sans Dieu, il était impossible d'avancer. Que cette loi a été faite et impossible de la respecter sans Dieu. Et que l'Éternel a puni son peuple désobéissant. Mais nous sommes sous la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, qui s'arrêtera un jour. Nous sommes sous l'alliance de la grâce. Et on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des outres neuves, dans des outres vieilles. Cela les ferait éclater. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous ne pouvez pas mettre cette nouvelle alliance dans de vieilles outres, dans de vieilles traditions. Ça les fait éclater. En quelque sorte, il faut renouveler nos mentalités pour que nous puissions connaître la vérité et que la vérité va nous affranchir. Changeons de mentalité. Changeons de lunettes. Regardons avec les lunettes de Dieu où tout est grâce. Car tant qu'on ne changera pas de mentalité, on va se priver de la bonté de Dieu et de tout ce qui va avec. Car le temps est venu où un souffle nouveau va venir. Car il est dit, dans les derniers temps, vous connaîtrez la vérité. Un temps est venu où le souffle nouveau est en train de souffler maintenant sur nous pour annoncer la vérité, pour ouvrir, redonner la vue aux aveugles. Dans l'ancienne alliance, l'Éternel a dit que son peuple soit sauvé des morsures de serpents venimeux dans le désert. Il fallait qu'il coure et regarde le serpent d'airain sur la perche. Jésus a dit dans Jean 3,14 « Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé. » Sozo. Celui qui croit au Fils de Dieu n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Dieu a dit, vous allez mettre un serpent sur une perche, un serpent venimeux. Et si vous voulez être guéri, si vous voulez être sauvé, si vous voulez être guéri des morsures de serpent, de votre souffrance, regardez au serpent d'airain sur la perche. Jésus a dit, je me suis fait malédiction sur la croix pour que vous soyez sozo, sauvés. Il y a un parallèle entre le serpent d'airain sur la perche et Jésus crucifié sur la croix. Regardez au serpent d'airain sur la croix et vous serez guéris, sauvés. Car j'ai tout accompli. Pour la guérison ou pour le salut, Il ne faut pas regarder aux circonstances, et on le voit en ce moment avec ces tumultes dans ce monde. Mais il faut croire aux promesses de Jésus. Car nous sommes dans une période de grâce qui va s'arrêter et il faut vraiment saisir cette grâce. Peu importe ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, si tu cours et que tu regardes à la croix, tu seras sauvé. Tu n'as rien à mériter, juste à hériter. Alors j'aimerais terminer par vous dire, croire que Dieu peut sauver ne suffit pas. Croire que Dieu peut guérir ne suffit pas. Il faut croire qu'il le veut. Il faut croire qu'il le veut. J'aimerais, dans un monde parfait, qui n'existe pas, que les chrétiens ne disent plus « Dieu permet cette épreuve pour me faire comprendre quelque chose. » Parce que c'est un mensonge. Parce que si ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont rien compris à l'amour inconditionnel de Dieu. Ils n'ont rien compris à l'amour inconditionnel de Dieu. Hier, je parlais avec mon mari. Est-ce qu'un papa ou une maman a un amour inconditionnel pour ses enfants ? Pas de la même façon que Dieu, mais oui. Parce que quel que soit ce que votre enfant a fait, vous n'allez pas le rejeter. Vous allez essayer de le comprendre, de lui pardonner et de l'amener un peu plus vers le Seigneur. Mais vous n'allez pas lui donner un coup de pied en disant ce que tu as fait, c'est mal. Oui. Ne disons plus ça. Parce que non seulement on n'a rien compris à l'amour inconditionnel de Dieu, mais je crois qu'en même temps, on lui fait de la peine. Comme on vient de le voir, la volonté de Dieu annoncée par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 9, 5, il a dit « Dieu qui promet à son peuple sa protection, la prospérité, et la justice. Il annonce la venue d'un Messie, un serviteur souffrant, qui incarnera la réalisation des promesses de Dieu. Il incarnera la réalisation des promesses de Dieu. Est-ce que vous avez regardé le nombre de promesses de Dieu qu'il y a dans la Bible ? C'est incroyable. Et attirera l'humanité tout entière à lui. Le Christ incarnera la réalisation des promesses de Dieu et attirera l'humanité tout entière à lui. Frères et sœurs, il ne suffit pas de lire la parole. C'est important de lire la parole parce qu'elle nous permet de comprendre et de s'approcher de Dieu, de l'intimité de l'épouse avec Jésus. Il ne suffit pas de la lire, il faut la croire et il faut la vivre. Faire ce qu'elle dit. Car tant qu'on ne sera pas en osmose avec la parole et les promesses de Dieu, on sera toujours en échec. Toujours en échec. Lorsque l'on n'aura pas on ne se sera pas approprié le langage de Christ, on sera toujours en échec. On ne peut pas dire d'un côté, Dieu veut guérir, sauver, pardonner tout le monde, et d'un autre côté, Dieu m'inflige une épreuve pour me faire comprendre. Ça ne va pas. Il y a quelque chose dans la balance qui va d'un côté qui n'est pas bon. L'amour inconditionnel de Dieu qui nous donne cette espérance qu'un jour, on sera avec lui. Quand on chante les chants, quand on a chanté le chant, là, tout à l'heure, je ne me souviens plus trop bien des paroles, mais des fois, c'est difficile de chanter des choses et de se les visualiser. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais visualiser que je suis sous la protection des ailes de Dieu. Visualiser que je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Difficile, ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, c'est difficile. Alors, je me concentre des fois et je me dis, oui, je vois, je vois. Et puis, petit à petit, on relâche cette concentration et on se sent comme amené dans les lieux célestes. Marcher devant Dieu. Enlève tes chaussures car tu es dans un lieu saint, a dit le Seigneur. Être là dans sa présence. Et là, vous vous sentez comme plus là. Ça vous est déjà arrivé de plus être là. Et quand on se sera approprié le langage du Christ, on pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en vous, si Christ vit en vous, réalisez juste cette parole, si Christ vit en vous, est-ce que vous pouvez être triste ? Non. Est-ce que vous pouvez ne pas être sauvé ? Non. Est-ce que vous pouvez ne pas être pardonné ? Mais non, c'est pas possible. Si Christ vit en vous, alors vous avez accompli toute la loi. L'amour est dans votre cœur. Et rien que l'amour. Et je puis tout en celui qui me fortifie. Amen. Alors je voudrais juste, si Quentin tu veux venir un petit peu au piano, si vous êtes d'accord, peut-être que je vous ai un petit peu choqué et je vous demande pardon, mais j'avais vraiment ça sur le cœur depuis longtemps. Et sachez que ce que je transmets, c'est aussi ce que moi j'apprends. Et en aucun cas, je ne le fais pour vous choquer ou pour vous perturber, mais parce que ce que moi j'apprends m'ouvre les yeux. Et il est dit que ce que l'on apprend, on doit aussi le transmettre. On ne doit pas garder ces choses pour soi. À quoi ça sert de garder des choses pour soi si on s'aperçoit que ça peut aussi faire du bien à d'autres ? Hein ? Alors peut-être que vous êtes d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est votre droit. Et je le respecte. Mais je voudrais juste qu'on incline un petit peu notre tête pour se visualiser qu'on rentre dans le Saint des Saints, en présence de Dieu, là maintenant. Et cet amour de Dieu inconditionnel qui dit pour chacun d'entre vous, ça fait tellement longtemps que je t'attends, tellement longtemps que j'ai envie de te serrer dans mes bras, tellement mon amour est fort, je vais y mettre peu de pression dans mes bras parce que tu ne seras pas capable de le supporter. Tellement ma grâce est là, comme le manteau sur Élie le prophète, je vais la soutenir pour que tu ne sois pas accablé par le poids du manteau. Car j'ai tellement attendu ce moment de te serrer dans mes bras que je suis heureux. Et Yves, essayez de visualiser la grandeur de Dieu, sa bonté, sa justice. N'oublions pas quand même qu'il est juste. Ce que j'ai tout dit, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à pécher. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Dieu pardonne si on lui demande pardon. Dieu justifie. Dieu fait grâce. Alors peut-être que certains, comme moi, je l'ai fait, peuvent demander pardon. Pardon Seigneur d'avoir cru à ces mensonges. Pardon d'avoir cru que j'avais mal au dos parce que tu voulais m'infliger une épreuve. Et c'est tout simplement parce que je suis un peu usée ou que j'ai fait trop d'efforts. L'ennemi veut vous faire croire ça. Il voudrait tellement que vous soyez tout le temps dans la culpabilité, tout le temps dans la culpabilité, à vous flageller, à toujours croire « j'ai pas suffisamment fait ». Arrêtons avec cet orgueil qui n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Alors moi, Seigneur, je renouvelle ces paroles de te demander pardon. Pardon pour les mensonges que j'ai crus. Pardon pour les mensonges que j'ai peut-être aussi prononcés. Et à partir de maintenant, je veux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je peux tout en celui qui me fortifie. Et ce Jésus qui a tellement souffert sur la croix, qui s'est donné pour moi, pour vous, pour chacun d'entre vous, n'est qu'amour, bonté, grâce, sainteté. Dieu qui s'est fait homme. Et demander, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fais que je diminue et que tu prennes toute la place. Car quand tu auras tout pris, tu auras pris toute la place. Puisque tu m'as délégué une partie de ton autorité sur terre, je peux tout en celui qui me fortifie. Amen.